Le débat du jour. Aurélien Devernoy.
C'est un secteur qui pèse 300 milliards d'euros. Le marché des implants médicaux est secoué par les révélations du Consortium international des journalistes d'investigation qui, dans une série d'articles, dévoile les dessous de ces dispositifs médicaux de plus en plus utilisés. Lobbying effréné, flou juridique, corruption et surtout des instances de contrôle apparemment dépassées. Et c'est la question sur laquelle nous allons nous pencher. Y a-t-il une faillite de ces instances ou une négligence organisée ? Le débat est ouvert sur l'antenne de RFI. Et pour discuter de ce sujet avec nous ce soir, Chloé Eketsweiler, journaliste enquêtrice au Monde, spécialiste de l'économie de la santé. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes l'une des auteurs des articles du Monde sur ces implant files exploités par le Consortium international des journalistes d'investigation. Et également avec nous ce soir, professeur Éric Vico, responsable du Centre d'évaluation du dispositif médical de l'APHP à l'unité de recherche clinique de l'hôpital Saint-Louis-Lariboisière. Fernand Vidal, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va commencer en essayant d'être pédagogue pour nos auditeurs. Prenons le cas d'une prothèse de hanche. Comment, entre sa conception et son implantation sur un patient, ce dispositif est-il contrôlé et comment ? Je commence avec vous, Chloé Eketsweiler.
Pour arriver sur le marché, la prothèse de hanche en Europe doit obtenir un certificat de conformité qui est délivré par un organisme notifié qui est une société privée. Donc ces sociétés privées ont la mission depuis les années 90 d'examiner les dossiers présentés par les fabricants. Donc c'est des dossiers qui sont censés comprendre un certain nombre d'informations, des données cliniques notamment. Et c'est sur la base de ce dossier que l'organisme notifié dit oui, on peut commercialiser ça en Europe ou non. Poursuivez vos études. Le souci de ce marquage CE, c'est que ces sociétés privées sont payées par l'industriel lui-même pour délivrer ce certificat de conformité. Et on se doute bien qu'une société un petit peu trop regardante risque de perdre ses clients et que voilà, ça pose un peu le souci de l'indépendance de son jugement.
Alors, Éric Vico, je me tourne vers vous à présent, puisque vous êtes chargé notamment d'évaluer les dispositifs médicaux. Comment ça se fait qu'au niveau de l'administration, il n'y a pas un regard plus précis et plus exigeant sur ces dispositifs de certification ?
Alors, je pense qu'il y a des raisons historiques à ça. D'abord, il faut bien se rendre compte que sous le même terme de dispositifs médicaux, on englobe des choses qui sont radicalement différentes. C'est-à-dire que la baisse-langue, la lunette, la canne anglaise sont des dispositifs médicaux comme le stent coronarien ou le stent intracrânien. Et ça pose un grand problème parce qu'on essaye d'appliquer la même doctrine d'évaluation à des choses qui sont radicalement différentes. Et je dirais que ça, c'est vraiment le vice initial de ce système. Il faudrait complètement séparer, on va dire, toute cette partie des dispositifs médicaux qui sont comme des produits, assez courants, et les dispositifs qui sont des dispositifs implantés chez le patient à risque, qui sont des dispositifs qui sont censés soigner. Et là, il faudrait vraiment avoir une logique de l'évaluation qui se rapproche et qui soit exactement similaire à celle des médicaments. Donc, le problème est vraiment dans la conception de base de ce système.
Donc, parce que pour revenir sur les médicaments, aujourd'hui, il y a une certification des médicaments qui est beaucoup plus exigeante, qui est beaucoup plus précise et qui surtout est déterminée par les États.
Alors, là, à l'heure actuelle, lorsqu'un médicament est mis sur le marché, on lui exige, pour avoir cette autorisation de mise sur le marché, des études cliniques extrêmement poussée, extrêmement sérieuse, avec des centaines de patients, avec des méthodologies extrêmement précises, extrêmement sérieuses. Le problème, c'est que cette exigence qui paraît maintenant quand même complètement naturelle, et c'est une des conditions pour que ce qu'on mette sur le marché soit des bons produits pour le patient, eh bien cette exigence-là, elle n'existe pas pour les dispositifs médicaux. Et je dirais, c'est la première partie du problème, c'est le début du problème. L'autre problème étant de suivre ces dispositifs médicaux quand ils sont sur le marché, mais on en parlera après.
On va en parler un petit peu plus tard. Alors, ce que disait Chloé Ketzweiler, c'est que l'un des sujets problématiques sur cette question, c'est le fameux marquage CE, conformité européenne, qui bien souvent suffit pour mettre un dispositif médical sur le marché, si j'ai bien compris, parce qu'après il y a des subtilités de remboursement, je crois, mais on va pas rentrer là-dedans pour l'instant. Alors, l'émission Cache Investigation sur France Télévisions a démontré cette semaine, un peu par l'absurde, ce mode de fonctionnement du marquage CE avec un filet à mandarine présenté comme une prothèse vaginale. Alors je vous propose d'écouter le professeur Karl Hennegan lors de ce reportage.
Le marquage CE signifie une seule chose. Quand un implant, par exemple une prothèse de hanche, est certifié, cela veut dire qu'elle est conforme dans la taille et dans la forme, mais certainement pas qu'on aura prouvé son efficacité et sa sécurité. Personne ne sait vraiment avec quel niveau de preuve clinique ces implants sont mis sur le marché. Ce sont d'abord les industriels qui contrôlent et prouvent la sécurité de leurs produits. Vous voyez le conflit d'intérêts là-dedans.
Voilà, donc le mot est lancé, un conflit d'intérêts. Chloé Ekesweiler, vous le disiez hein, finalement, parce que quand un organisme de certification a besoin de ses gros clients du secteur des dispositifs médicaux, c'est sûr que c'est plus compliqué de dire non ou de ne pas valider. Néanmoins, on se pose quand même la question de savoir... pourquoi les États, alors État par État, sans parler même de l'Union européenne, n'arrivent pas à mettre davantage d'autorité sur ce secteur-là ?
Parce qu'en fait, les choses se sont décidées au niveau européen. Donc, ce choix de se distinguer de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments et de favoriser une autre procédure a été faite par tous les États. Donc, tout le monde n'était pas d'accord, mais à la fin, c'est ce qui s'est imposé. Et une fois qu'un dispositif médical a obtenu son marquage CE, il a la possibilité d'être commercialisé dans tous les États membres. Et les États membres n'ont pas vraiment la possibilité de s'opposer à l'entrée sur le marché d'un dispositif. Donc, la seule chose que peuvent faire les autorités nationales, et c'est ce qui se passe un peu en France, c'est de mettre finalement des barrières, par exemple, au remboursement. C'est le cas en France. Il y a un petit nombre d'implants médicaux qui sont très onéreux, sur lesquels la haute autorité de santé a un regard et va dire voilà, nous on pense qu'il y a un bénéfice qui est apporté et on recommande le remboursement de cet implant. Mais évidemment, ça ne concerne qu'une toute petite minorité des implants médicaux et la vaste majorité peut rentrer sur le marché sans autre forme de contrôle que voilà, simplement apporter son marquage CE. Et puis il y a une autre façon aussi de rentrer, c'est que même si on a un dispositif onéreux et potentiellement à risque, rien n'oblige le fabricant à passer devant la haute autorité de santé. Il peut directement aller se présenter dans les hôpitaux et aussi les cliniques et commencer voilà, à proposer son implant aux chirurgiens, aux cardiologues, sans autre forme de contrôle.
Alors, vous parliez du cas français. Donc, il y a des dispositifs supplémentaires en France, en effet, au-delà du marquage CE. Je vais vous proposer d'écouter la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle était interviewée sur France Inter cette semaine.
J'ai toujours entendu les ministres de la Santé qui m'ont précédé dire que les futurs scandales sanitaires viendraient des implants. En tous les cas, des dispositifs médicaux, ils ont toujours été inquiets, justement, du peu de régulation, et ils ont toujours fait en sorte que la France soit en avance de phase sur la régulation.
Alors, la France est en avance, mais, pour résumer ce que vient de dire la ministre, ça fait au moins 11 ans que le ministère de la Santé est inquiet, mais globalement, il n'a pas fait grand-chose depuis, Éric Vicot.
Alors, il y a deux aspects là-dedans. D'abord, un aspect politique. Il est exact que au moment où Xavier Bertrand était ministre de la Santé, la France a porté une demande au niveau européen pour que chaque dispositif médical implantable ou qui soigne, thérapeutique, disons, soit soumis à une autorisation de mise sur le marché, comme un médicament. Et c'était, je pense, une position absolument remarquable de notre pays sur ce point. Maintenant, ça a été refusé et force est de constater que, malgré cette éventuelle inquiétude dont parle la ministre, rien n'a été fait de plus. J'ai, pour ma part, remis en 2013, c'est-à-dire il y a déjà 5 ans, un rapport sur l'évaluation des dispositifs médicaux. aucune suite depuis 5 ans.
Et pourquoi ?
Écoutez, parce que je pense que, contrairement peut-être au discours qu'on vient d'entendre, il n'y a pas une préoccupation à la hauteur des enjeux. Et je dirais que cette réflexion collective, grâce à ce collectif de journalistes, permettra peut-être de faire bouger les choses, parce que finalement les choses ne bougent que quand elles sont sous le projecteur de l'actualité. Mais c'est tout à fait malheureux, parce que sous le projecteur de l'actualité, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup de victimes qu'on aurait pu éviter.
Oui, parce que je ne sais pas si c'est dans votre rapport, mais en tout cas, j'ai lu l'une de vos publications qui notait, donc, il y a 6 ans ou 5 ans, que par exemple pour les stents, c'est-à-dire ce qu'on peut mettre pour les artères, je pense, dans le crâne.
Oui, absolument, les artères cérébrales.
Voilà, les stents intracrâniens. Un certain nombre de dispositifs existent, et sur ces dispositifs, un nombre assez élevé n'a fait l'objet d'aucune étude clinique.
Oui, alors, effectivement, sur
comment
un certain nombre
possible
de...
Bah, comment c'est possible qu'on mette sur le marché des dispositifs médicaux qui n'ont pas fait l'objet d'études cliniques?
Il y a deux aspects là-dedans, si vous voulez. Dans le marquage CE et la réglementation européenne qui existe jusqu'à maintenant, qui sera un petit peu modifiée, on pourra en parler par la suite, mais il y avait la possibilité d'avoir le marquage CE, je dirais, d'une certaine façon, par équivalence entre des dispositifs qui existaient et sur la base de publications faites par d'autres dispositifs. Donc, on n'avait pas cette obligation d'avoir des études cliniques. L'autre point qui est extrêmement important à considérer, c'est que c'est pas parce qu'un dispositif va amener, je dirais, quelques cas cliniques que ce sera suffisant pour évaluer son bénéfice et son risque. Il faut absolument qu'un dispositif de ce type, c'est-à-dire implantable, un dispositif thérapeutique, qui vienne sur le marché uniquement au moment où il a démontré un bénéfice-risque favorable. Et ça, il ne pourra le démontrer que lorsqu'il se compare à d'autres dispositifs ou à d'autres stratégies thérapeutiques, des médicaments par exemple.
Et il faut des essais médicaux.
Et il faut des essais cliniques.
C'est bien ça
qu'on
souci.
Demande.
Oui, oui. Parce que justement, dans la série d'articles que vous avez publié dans Le Monde, Chloé, c'est l'une des choses que vous soulevez, c'est que ces dispositifs médicaux, à défaut de faire l'objet d'essais cliniques en amont, on utilise les patients réguliers pour comme cobayes en réalité.
C'est à peu près ce qui se passe, puisque souvent, quand elles existent, les études cliniques sont extrêmement limitées. On peut mettre sur le marché un implant qui a été testé chez une poignée de patients et une dizaine d'animaux. Et donc, ça arrive sur le marché, et les premiers cobayes, les vrais cobayes, ce sont les premiers patients implantés. Et voilà, les chirurgiens d'ailleurs l'admettent, les premiers patients paient un peu les pots cassés pour permettre éventuellement à une innovation de démontrer son bénéfice. Mais c'est vrai que pour les premiers patients, c'est un risque énorme. Souvent, ils n'en sont pas informés. Et c'est vrai que ça pose une vraie question. Et on ne comprend pas toujours pourquoi ce qui est possible pour les médicaments, c'est-à-dire des études, de belles études cliniques avec beaucoup de patients, avec des comparateurs bien étudiés, etc., n'est absolument pas possible pour les dispositifs médicaux, où on s'aperçoit finalement, parfois après plusieurs milliers de patients implantés, qu'on a fait une énorme erreur et que finalement le dispositif qu'on a implanté chez 150 000 patients s'avère bien plus délétère que la stratégie thérapeutique habituelle.
Pourtant, l'argent est là, et d'ailleurs, l'une des principales sociétés de dispositifs médicaux, qui s'appelle Medtronic, a mis 5 milliards d'euros ou de dollars de côté au cas où il se ferait attaquer en justice. Ces 5 milliards de dollars, ils auraient pu être utilisés pour des études cliniques peut-être.
Tout à fait, mais le système est organisé de telle sorte que pour un industriel, c'est extrêmement rentable de finalement faire très rapidement des mini-études cliniques, de lancer très vite son dispositif, de l'implanter chez un maximum de patients en croisant les doigts pour que ça marche et que finalement il n'y ait pas trop de problèmes, quitte si malheureusement ça marche pas, ensuite à conclure des arrangements avec les patients. Donc ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça se fait un peu moins en France, où les patients ont ici beaucoup plus de mal à se faire indemniser en cas de problème.
Ce qu'il faut dire aussi de ce point de vue-là, et ce qu'il faut que les auditeurs aussi entendent, c'est que malheureusement, les exigences européennes sont à un niveau beaucoup plus bas que les exigences, par exemple, aux États-Unis. Oui, c'est la, que la FDA est beaucoup plus exigeante que l'Europe.
Parce que les sociétés utilisent finalement les conflits entre les États membres de l'Union européenne pour avoir une réglementation à minima, c'est ça ?
Exactement. Et la conséquence de cela, c'est qu'on est dans beaucoup de cas, dans la situation où le produit est vendu larga manu en Europe et les profits vont permettre de financer les bonnes études qui sont faites pour protéger les patients américains. Et ça, c'est quand même une situation qui est absolument inacceptable.
Alors, ça nous amène à une nouvelle partie du débat. Est-ce que cette négligence, elle est organisée ? Ou si on tourne la phrase autrement, est-ce que les fabricants ont fait en sorte que personne ne regarde de trop près leurs pratiques ?
Les fabricants exercent un lobbying massif au niveau des autorités européennes. Ils ont beaucoup d'argent à consacrer à ça. Ils sont extrêmement organisés avec des associations professionnelles qui vont faire l'éducation des parlementaires et de toutes les commissions en leur présentant évidemment tout ce qu'il y a en jeu, évidemment la santé des patients, mais aussi les emplois, les enjeux économiques associés au secteur. Et voilà, de façon très stratégique, faire passer leurs arguments aux uns et aux autres jusqu'à, voilà, finalement, je vais pas dire tenir la plume de ceux qui écrivent les textes, mais en tout cas, à faire très largement entendre leur point de vue.
Alors justement, quand vous parlez de tenir la plume, il y a une nouvelle réglementation européenne qui va entrer en vigueur en mai 2020. Éric Vicot, vous pensez que cette réglementation, justement, elle a été coécrite avec les grandes sociétés qui produisent des dispositifs médicaux ?
Écoutez, je ne sais pas si elle a été coécrite, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, je dirais, les quelques points fondamentaux qui pourraient permettre de protéger efficacement les patients n'ont pas été inclus dans cette nouvelle réglementation européenne. Donc, je ne vais pas faire de diabolisation, mais le résultat est là. Il était extrêmement simple de profiter de cette nouvelle réglementation pour imposer, avant la mise sur le marché, une évaluation sérieuse du bénéfice-risque. Exactement, encore une fois, comme ce qui est imposé de façon très logique pour le médicament. Et ça n'a pas été fait. Et donc, on peut penser que ça soit, je dirais, conscient, inconscient, financé ou non financé. Le résultat, c'est que des positions qui étaient des positions des industriels ont gagné dans l'écriture du nouveau règlement européen.
Alors, il nous reste un tout petit peu plus de 2 minutes. Nous sommes sur RFI, très écoutés en Afrique, vous le savez. Le marché des dispositifs médicaux y est en forte croissance. Il y a aussi du tourisme médical en Afrique. Et la norme CE, c'est une référence dans beaucoup des pays africains. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir aussi en Afrique par rapport à ces dispositifs médicaux ? Des inquiétudes peut-être même plus importantes qu'en Europe, selon vous, Éric Vicot ?
Ah, je pense qu'il y a, à mon avis, probablement les mêmes inquiétudes en Afrique que celles des patients européens et à juste titre. Il faut bien voir que la norme CE, non, ce n'est pas une protection suffisante, en tout cas, encore une fois, pour un certain type de dispositifs les plus dangereux et, encore une fois, les dispositifs médicaux thérapeutiques. Pour d'autres, on va dire, où le problème est uniquement un problème d'ingénierie, ce sont des normes qui sont acceptables. Mais pour tout ce qui est implanté, pour tout ce qui est dépendant de la réaction entre l'implant et le patient, là, c'est insuffisant.
Chloé Ketzweller, vous avez eu des témoignages, hein, d'ailleurs, de patients africains dans vos articles. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
L'un d'eux que j'ai lu ce matin disait que pour lui, finalement, la question se posait pas parce qu'on lui avait préconisé la pose d'un stent pour soigner sa pathologie, mais que de toute manière, là où il habitait, il n'y avait pas d'établissement où pratiquer ce genre d'intervention et que de toute manière, ça coûtait beaucoup trop cher. Donc voilà, il y a d'autres problèmes qui se posent. Et puis, il y a aussi, quand c'est possible, beaucoup de patients africains qui viennent se faire soigner en Europe.
Le suivi est d'autant plus compliqué.
Voilà. Et le suivi est d'autant plus compliqué. Parce qu'ensuite, évidemment, ils retournent chez eux et voilà, ils sont livrés à eux-mêmes en cas de problème.
Donc le conseil, de toute façon, c'est bien parler avec son chirurgien, bien parler de son cas pour pouvoir faire en sorte que les risques soient minimisés, on va dire.
Effectivement, parce qu'il faut quand même, pour terminer, souligner que les dispositifs médicaux, c'est un porteur de progrès thérapeutique. C'est même justement une des raisons pour lesquelles ça doit être parfaitement évalué.
Merci beaucoup Éric Vicot, responsable du centre d'évaluation du dispositif médical de l'HPHP. J'aurais pas le temps de dire merci Chloé Ketzweller également.